Les années-lumière, édition du 22 novembre 2009. $9 milliards d'humains en 2050. Au sommet mondial de l'alimentation à Rome, on s'est demandé comment la Terre pourrait les nourrir. Bonjour, ici Yannick Villedieu, l'équipe. Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine d'actualité de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. Une émission qui commence avec vous, Sophie-André Blondin, et avec des arbres qui vont, à leur tour, s'offrir un petit voyage dans l'espace.
Une forêt miniature pousse en éprouvette dans la station spatiale, sous l'œil attentif des scientifiques en orbite sur la Terre.
Hugues de Roussan, quand le cœur arrête, le cerveau devrait être mis au ralenti.
Oui, Yannick, après un arrêt cardiaque, refroidir le corps et le cerveau le plus rapidement possible permet de limiter les dégâts. Et bientôt, il y aura un appareil tout simple qui fera gagner des minutes précieuses.
Gaël, Lucia Berdou, le courrier des auditeurs nous amène et je me demande pourquoi une question sur la vaccination. Bizarre.
Et oui, Yannick, on vous dira si les vaccins peuvent favoriser l'apparition de résistance chez les virus.
Et nous aurons pour finir la chronique des années-lumière. Cette semaine, la médecine avec la docteure Marie-Dominique Beaulieu qui s'intéresse à la douleur chez les nourrissons, entre autres quand on leur fait, tiens, une piqûre. Deuxième heure, Chantal Srivastava, vous étiez donc à Rome cette semaine au sommet mondial sur l'alimentation. Est-ce qu'on y a trouvé la réponse à cette question de savoir si la Terre pourra nourrir 9 milliards de personnes en 2050?
On sait, Yannick, que la Terre est capable de pourvoir à nos besoins, mais la question, c'est de savoir si les politiques suivront.
Puis ce sera le petit journal de la science. Et pour finir, l'auteur des années-lumière, c'est vous qui allez le recevoir cette semaine, Sophie-André.
Vous avez dit hasard? Entre mathématiques et psychologie, c'est le titre du livre que Nicolas Gauvry publie aux éditions Belin.
Mais pour commencer donc, des arbres en orbite.
T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, and liftoff of Space Shuttle Atlantis on a mission to build, resupply, and to do research on the International Space Station.
Et voilà, c'était elle, la navette Atlantis, qui a pris le chemin de la Station Spatiale Internationale cette semaine. Alors à bord, il y avait 6 astronautes, tous des hommes, tous des Américains, mais aussi il y avait 18 saules bien canadiens, 18 arbres donc, dans un endroit où chaque centimètre compte. Sophie-André, qu'est-ce qu'on va faire de cette forêt miniature?
On va étudier la physiologie fondamentale des arbres, les processus de formation du bois. Alors les saules qui sont arrivés dans la station spatiale sont tout petits, chacun est dans son éprouvette. Ils vont pousser pendant 30 jours en apesanteur et dans un genre d'incubateur à bord, le ABSR, un système de recherche biologique avancé. Il y a des saules qui vont pousser sans entrave et d'autres qui ont été manipulés par l'astronaute canadien Bob Thirsk. L'expérience porte le nom d'Apex Cambium et elle a été conçue par Rodney Savage de l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle vise à isoler le rôle de la gravité dans la formation du bois de réaction. Ça, c'est un bois qui se forme quand un arbre ne pousse pas droit, ne pousse pas à la verticale. Mm-hmm. Lucino Cohen est responsable scientifique à l'Agence spatiale canadienne qui finance cette recherche. Je l'ai joint en Floride au Centre spatial Kennedy après le décollage de la navette.
L'objectif de cette expérience, c'est de démontrer sans équivoque si l'attraction terrestre joue un rôle dans le processus de formation d'un certain type de bois. Donc, pour déclencher la formation de ce bois, l'astronaute va faire une boucle avec la tige de ces arbres, ce qui va déclencher la formation d'un type de bois, et on va déterminer si cette formation a lieu exactement comme sur Terre ou si en l'absence de gravité, en apesanteur, cette réponse est différente.
Parce qu'un arbre ne fabrique pas le même type de bois s'il pousse courbé ou s'il pousse vertical.
Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on appelle du bois de réaction. On va effectuer une boucle dans la partie supérieure de cette boucle, le bois de réaction va se former. En tout cas, c'est ce qui se passe sur Terre et c'est ce qu'on va vérifier au retour des échantillons.
Alors, si effectivement l'attraction de la Terre fournit le stimulus à la formation du bois de réaction, normalement, en apesanteur, sans cette attraction terrestre, le bois de réaction ne devrait pas se former dans les sols qui poussent en boucle.
Exactement. Il y a encore la possibilité qu'il se forme différemment ou qu'il se forme dans une localisation différente, mais c'est peu probable pour l'instant.
Les saules sont partis, vous les avez vus partir, vous êtes encore en Floride. Qu'arrivera-t-il maintenant? Combien de temps passe-t-il en espace? Et quand est-ce qu'ils reviennent? Ils ne reviendront pas avec Robert Thirsk parce que Robert Thirsk doit revenir plus tôt.
Absolument. À la suite de ce 30 jours de croissance dans ABRS, ils vont être fixés dans un réactif de façon à ce qu'ils ne soient pas altérés jusqu'au moment où ils reviennent en février. Donc, c'est à partir de là que le Dr Savage va pouvoir effectuer des analyses microscopiques sur les échantillons.
Luc Hineau, Cohen, responsable scientifique des sciences de la vie à l'Agence spatiale canadienne. Sophie André, pendant que ces saules poussent en orbite, il y en a d'autres qui poussent sur Terre.
Qui sont strictement identiques et dans des conditions qu'on veut le plus exactement semblables à celles qui prévalent pour les saules en espace, sauf une variable, la gravité. Ailleurs aussi, sur Terre, dans les serres de la Faculté de foresterie de l'Université Laval, John Mackay surveille la croissance d'autres arbres, des peupliers cette fois. Il essaye avec son équipe de comprendre les processus biologiques qui sont à l'œuvre dans cette fameuse formation de bois de réaction. C'est une partie des arbres qui se forment dans le cambium, d'où le nom de l'expérience en espace. Donc, cambium, c'est la couche vivante qui produit les cellules qui forment le bois dans un arbre. Le bois de réaction n'est pas aussi désirable que le bois qu'on dit normal. Il contient plus de cellulose, mais moins de lignine. La cellulose, c'est intéressant, mais la lignine, ça donne la solidité, la rigidité du bois et sa résistance à des champignons ou à des bactéries. John Mackay étudie la formation du bois de réaction non pas dans des incubateurs en espace, mais dans des serres à l'Université Laval. Je vous y emmène.
Des mousses, des sphènes qui viennent de la forêt. On a des épinettes ici aussi.
Alors, l'expérience qui se passe en espace va isoler un facteur dans la production d'un type de bois dans les arbres qui s'appelle le bois de réaction. Vous étudiez ça dans la serre ici, à droite, ici.
Oui, on étudie exactement ce phénomène. C'est un phénomène qui est important pour tous les arbres, autant les feuillus que les résineux. Et c'est un type de bois qui se développe chez les arbres qui sont soit penchés ou inclinés pour une raison quelconque. Et c'est un phénomène qui diminue généralement la qualité du bois, donc son potentiel d'utilisation.
Alors, pouvez-vous me montrer ce que vous faites ici pour l'étudier, le bois de réaction? Là, on rentre dans une serre qui va être un peu fraîche. Hein?
Une serre qui est à 4 degrés présentement.
Oui.
Parce qu'on veut préparer les arbres pour l'hiver. Présentement, dans la serre, on a différents types d'arbres. Certains qui peuvent être utilisés pour tester l'effet de la gravité en faisant pousser les arbres en position inclinée ou penchée. On a aussi des arbres qui sont génétiquement modifiés dans le but d'évaluer quels seraient les mécanismes physiologiques importants pour former ce bois.
Ce qu'on a devant nous, ce sont des peupliers?
Oui, ce sont des peupliers hybrides.
Vous en forcez quelques-uns à produire ce bois de réaction?
Oui. En fait, on a, au cours des dernières années, réalisé différentes expériences où on a forcé la formation de bois de réaction et on a comparé ce type de phénomène à d'autres phénomènes aussi, tels que la croissance accélérée suite à la fertilisation, ce qui nous permet, sans faire des expériences dans l'espace, à notre façon de développer des nouvelles connaissances sur le bois, sa structure, sa composition.
Pour nous expliquer tout ça, si vous voulez bien, on va sortir, on va aller au chaud. Alors, en espace, c'est facile d'isoler une variable comme la gravité parce que c'est la variable qui est absente quand on est en apesanteur. Ici, on ne peut pas vraiment avoir des serres en apesanteur. Ce serait peut-être agréable, mais ce n'est pas le cas.
Ce serait très intéressant, mais en fait, on n'y a jamais pensé. Mais maintenant que les arbres sont dans l'espace, ça fait travailler un peu l'imagination.
Alors, il y a plusieurs variables qui font qu'un arbre va produire de ce bois de réaction. Quelles sont les variables?
Alors, ce qu'on voit le plus souvent, ce sont des arbres qui, pour une raison quelconque, ne poussent pas dans une orientation verticale normale, suite par exemple à des vents forts, dominants, ou encore à de la glace, ou encore à la perte d'une branche qui entraîne un débalancement de la cime. Mais aussi, ce qu'on constate, c'est que lorsque les arbres poussent très rapidement, ils ont tendance à faire plus de bois de réaction. Nous avons récemment fait différentes expériences en serre en soumettant différents plants de peupliers à des niveaux de fertilisation en azote différents et comparé l'effet de cette stimulation de croissance à la formation de bois de réaction causée par la gravité directement en inclinant les plants.
Donc,
en
les avez fait pousser des peupliers dans des pots à 45 degrés.
C'est ça. Les arbres ont été placés dans une position à 45 degrés par rapport à la verticale, ce qui entraîne une forte production de bois de réaction. Et donc, on a pu faire la comparaison directe des deux phénomènes, la fertilisation et l'inclinaison des arbres. Dans les arbres fertilisés, le bois qui est formé ressemble au bois de tension, mais comporte aussi des différences. Donc, cette découverte mérite d'être analysée plus en profondeur pour mieux comprendre les différences et quelles seraient leurs causes. Mais effectivement, une croissance très accélérée sous certaines conditions semble aussi mener à une augmentation du bois de tension.
Le bois de tension, il est situé dans un endroit précis sur l'arbre, par exemple quand il pousse de façon inclinée. On peut savoir, en regardant un arbre, où va se former le bois de tension.
C'est juste. Le bois de tension se forme du côté supérieur de la tige qui est inclinée, donc une partie du tronc qui serait plus exposée vers le ciel, contrairement à une partie du tronc qui serait plus tournée vers le sol. Tout ça est mis en place par l'arbre pour tenter de redresser la tige vers la position verticale.
C'est peut-être pour ça qu'on soupçonne que la gravité, l'attraction terrestre, est un facteur central dans la production de ce bois de tension, bois de réaction, parce que sans cette gravité, l'arbre n'a pas besoin de savoir où est le haut, où est le bas, et de forcer sa verticalité.
C'est juste. La gravité semble être le facteur déclencheur de la formation du bois de réaction. Mais il s'ensuit d'autres phénomènes internes de l'arbre, tels qu'un débalancement local au niveau des hormones de croissance. Et donc, pour départager quelle pourrait être la cause et les effets, une étude en absence de gravité devrait mener à une meilleure compréhension du phénomène et donc, ultimement, à une meilleure gestion des arbres en plantation.
Est-ce qu'il se pourrait que cette expérience en espace réponde définitivement à des questions qu'on se pose depuis longtemps?
À mon avis, l'expérience en espace pourrait amener des développements très, très importants pour nous permettre d'expliquer le phénomène. Mais étant donné les contraintes de la station spatiale, j'imagine que ce sera une première expérience de plusieurs expériences à venir. Mais cette expérience pourrait être une expérience critique pour la suite, pour nous donner des hypothèses plus fines et pour mieux comprendre les phénomènes sous-jacents à la formation du bois de réaction. Entre autres, avec les outils modernes de la génomique, on va peut-être éventuellement pouvoir tester certaines de ces hypothèses. L'idéal, ce serait d'avoir accès à un laboratoire en apesanteur ici sur Terre pour faire des expériences plus soutenues sur le plus long terme.
Quand on pense aux retombées de recherches comme celle-là et comme les vôtres, on pense évidemment à la culture, à l'industrie. D'autres voient aussi des retombées en espace.
Alors, la culture des arbres dans l'espace relève encore pour nous de l'imagination ou peut-être de la science-fiction. Mais peut-être qu'un jour, on y viendra. Et je pense que la culture des végétaux est peut-être quelque chose à considérer si on veut commencer à un jour habiter l'espace ou d'autres planètes. Et l'étude des arbres pourrait faire partie de cette problématique plus large.
Mais merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir.
C'était John Mekai, professeur agrégé à la Faculté de foresterie de l'Université Laval à Québec.
Oui, à l'écouter, Yannick, faire pousser des arbres dans l'espace, c'est peut-être encore de la science-fiction, mais des serres en apesanteur sur Terre, c'est quelque chose à laquelle on ose penser. Alors honnêtement, j'ai hâte au prochain reportage dans les serres de recherche.
Merci.
Au revoir.
Merci, Sophie-André.
Ici Lily Marin, journaliste au site Internet des Années Lumière. Je vous rappelle que votre magazine d'actualité et de culture scientifique est disponible sur le web à l'adresse radio-canada.ca/lumière. Et vous pouvez même emporter l'émission dans votre poche en vous abonnant à la balado-diffusion sur notre site Internet. Il n'y a plus d'excuses pour manquer les Années Lumière avec Yannick Villedieu.
Quand une personne est victime d'une crise cardiaque, on le sait, chaque minute, chaque seconde même compte. Il faut intervenir rapidement pour augmenter les chances de survie du malade et aussi pour diminuer les risques de dommages au cerveau. Deux méthodes d'intervention bien connues, hein, les manœuvres de réanimation cardiaque qui se font sur place, puis aussi la technique de l'hypothermie qui consiste, une fois que le malade est arrivé à l'hôpital, à abaisser la température du corps de quelques degrés. Eh bien, une étude a été menée en Europe sur une nouvelle technique de refroidissement qui permet, sur place, d'abaisser la température du corps et du cerveau, ce qui permet effectivement de gagner des minutes très précieuses. Hugues de Roussan.
Oui, vous l'avez dit, Yannick, lorsqu'il y a un arrêt cardiaque, c'est une véritable course contre la montre qui s'engage. Actuellement, dans la plupart des pays, ce sont les ambulanciers qui arrivent les premiers et qui interviennent en pratiquant des manœuvres de réanimation cardiaque. Donc, ces manœuvres sont pratiquées sur place. Mais pour ce qui est du refroidissement du corps, les ambulanciers ne peuvent pas le faire. Ils doivent amener le patient à l'hôpital pour qu'on puisse, à l'hôpital, abaisser la température et ralentir le métabolisme du patient. Et ça, ça peut prendre environ 1 à 3 heures pour faire passer la température de 37 degrés à environ 34 degrés et même un peu moins. Pour certains, c'est beaucoup trop de temps. Alors, une étude a été menée en Europe dans 15 cliniques privées situées dans 5 pays sur une nouvelle méthode de refroidissement auprès de 200 patients victimes d'un arrêt cardiaque. Alors, il s'agit d'un cathéter nasal appelé RhinoShield qui est introduit directement sur place dans les narines et par lequel on injecte un liquide de refroidissement. Le docteur Didier Desruelle a participé à cette étude et il est médecin d'urgence à la clinique universitaire Gasteusberg à Louvain, en Belgique.
C'est une petite machine qui est tout à fait portable et qui va en fait produire une vapeur de perfluorohexane. Un mot très compliqué, mais c'est simplement une substance inerte. Donc même si elle est absorbée au niveau du corps humain, elle ne présentera aucun effet secondaire. Et le fait de la vaporiser au niveau de la cavité nasale du patient, parce que c'est bien là que ça va avoir lieu, elle permet en réalité de descendre la température localement jusqu'à environ 2 degrés centigrades. Étant donné que dans la cavité nasale, on travaille très très proche du cerveau par un simple processus de diffusion, c'est le cerveau qui sera le premier refroidi. Par ailleurs, et plus tard, si le patient a la chance de reprendre une activité cardiaque, un refroidissement qui va se généraliser à tout le corps.
À quoi ça ressemble?
Vous devez vous imaginer une sorte, à l'heure actuelle, de sac à dos qui contient pour une part une petite bouteille d'oxygène de 1 litre, qui contient également la fameuse substance perfluorohexane qu'on peut un petit peu comparer à une bouteille de Coca-Cola de 1 litre et demi à 2 litres. Et pour le reste, une sorte de mini-ordinateur finalement qui pilote l'ensemble. Facile à transporter, une douzaine de kilos. C'est la version actuelle. Elle va être améliorée. On va bientôt disposer de quelque chose qui sera plus léger, qui tournera aux alentours de 7 à 8 kilos et qu'on pourra porter en bandoulière.
On parlait d'un cathéter nasal, ça veut dire qu'on insère des tubes dans les narines, c'est ça?
C'est bien ça. Donc, il s'agit d'un petit tube en plastique. Vous avez peut-être déjà vu en clinique quelqu'un qui reçoit simplement de l'oxygène. Ça se passe également sur base de ce qu'on appelle des lunettes nasales. Et donc, il faut s'imaginer deux petits tuyaux de plus ou moins 4 à 5 cm de long qui sont effectivement placés dans chaque narine du patient.
D'après ce que j'ai pu lire, c'est quelque chose qu'on appelle convivial. Donc, on n'est pas obligé d'avoir une formation universitaire post-doctorale pour pouvoir manipuler le RhinoShield.
Tout à fait. Et là, vous avez entièrement raison. Encore une fois, le but du jeu serait de pouvoir l'initier aussi rapidement que possible. Et dans de nombreux pays, les personnes qui arrivent en premier lieu sur la réanimation, ce sont des ambulanciers. Que doivent-ils connaître? Insérer deux petites buses en plastique dans le nez du patient, ça, tout le monde peut le faire. Et puis, il s'agit d'appuyer sur un bouton on-off et de tourner un autre bouton pour délivrer un flux. Donc, après une formation qui ne doit pas prendre plus qu'une heure, je pense que tout un chacun est tout à fait capable de commencer ça.
Oui, c'est simple, effectivement. Hugues, vous avez parlé d'une étude. Les résultats sont concluants?
Eh bien, Yannick, l'étude a montré qu'en utilisant ce cathéter nasal, on gagnait en fait beaucoup de temps. Le Rhinoshield refroidit le cerveau 3 heures plus rapidement et le corps 2 heures plus vite que ne le feraient les techniques traditionnelles qu'on retrouve dans les hôpitaux. Alors, d'autres résultats intéressants, le taux de survie avec retour à la maison est de 59% pour les patients qui ont bénéficié du cathéter nasal sur place, contre 29% seulement pour les patients qui ont dû attendre d'arriver à l'hôpital pour voir la température de leur corps abaissée. Autre chiffre, 45% des patients qui ont eu le cathéter ont retrouvé une activité neurologique normale, contre 17% pour les autres.
Alors, impressionnant effectivement comme résultat, hein, mais il faut quand même préciser que cet appareil-là, ça ne remplace pas les manœuvres de réanimation cardiaque. Hein,
non,
même.
Pas du tout, bien au contraire. Ce cathéter se veut un outil de plus pour gagner la guerre contre les secondes, les minutes et pour diminuer les risques de dommages au cerveau. On sait, Yannick, que le cerveau est le premier organe à souffrir en cas d'arrêt cardiaque. On écoute à nouveau Didier Desruelles.
Clairement, il va de soi que la réanimation, donc simplement le massage cardiaque et la ventilation, sont encore à l'heure actuelle la priorité des priorités. Comme je vous ai expliqué, il y a quelques années, on appliquait l'hypothermie, mais surtout en milieu intra-hospitalier, donc en moyenne une grosse demi-heure ou une grosse heure après la réanimation en tant que telle. Il y a aussi un consensus à l'heure actuelle pour dire que l'hypothermie devrait être continuée, ou plutôt commencée aussi rapidement que possible. Et dès lors, cet appareil qui nous permet de déjà l'appliquer en préhospitalier est effectivement idéal. Très concrètement, les ambulanciers arrivent sur place, commencent à réanimer le patient, donc commencent à effectuer un massage cardiaque. Ils commencent à ventiler le patient également. Et à l'heure actuelle, on demande aussi de d'abord l'intuber, donc de placer un tube endotrachéal, de telle sorte à protéger les voies aériennes avant qu'on ne commence à vaporiser notre fameux perfluorohexane. Donc, un, le massage cardiaque, deux, l'intubation du patient, trois, aussi rapidement que possible, initiation de l'hypothermie.
On met ce cathéter nasal dans les narines du patient pendant les manœuvres de réanimation ou c'est une fois les manœuvres terminées?
Non, absolument. C'est clairement pendant les manœuvres de réanimation et donc l'étude à laquelle nous avons participé avec la Rhinoshield a ça de spécifique que c'est effectivement la première étude qui applique l'hypothermie pendant l'arrêt cardiaque et non après.
Ce Rhinoshield, est-ce que ça va devenir quelque chose de tout à fait normal à l'intérieur d'un hôpital ou ce sera un outil de plus pour les ambulanciers sur l'intervention directe sur le terrain?
Alors là, il y a en fait deux réponses à votre question que je voudrais bien séparer.
Allez-y.
C'est avant tout, est-ce que ce sera une mesure standard? Et là, pour être honnête avec vous, je pense qu'on est un petit peu trop tôt pour appeler ça un standard. Donc l'étude PRINCE qui a été réalisée a effectivement inclus 200 patients et a montré de très bons résultats. Mais encore une fois, c'est un petit groupe, malgré qu'il y en a quand même 200 qui ont été inclus. Et donc ce petit groupe, c'est assez faible, je dirais, ça pèse assez faiblement dans la balance pour dire, OK, à partir de demain, tout le monde doit absolument recourir à cette technique et l'appliquer. Donc je pense que là, clairement, de nouvelles études qui vont confirmer ces premiers bons résultats sont absolument nécessaires. La deuxième partie de la réponse, est-ce qu'on parle d'une technique qui doit être appliquée dans l'hôpital ou à l'extérieur? Encore une fois, le but ici est très clairement de commencer aussi vite que possible et donc l'application doit être faite en milieu préhospitalier. Il est cependant possible de continuer pendant un certain temps en intra-hospitalier en attendant de prendre le relais avec une autre technique. Mais clairement, l'application du Rhinoshield est destinée au milieu préhospitalier.
Didier Desruelles est médecin d'urgence à Louvain, en Belgique. Alors Hugues, actuellement, dans les hôpitaux, on peut déjà procéder sur des patients qui ont subi un arrêt cardiaque à des techniques de refroidissement, là, on le sait, là, mais qui ont fait leurs preuves, elles.
Qui ont fait leurs preuves, mais qui ne sont pas toutes aussi bonnes les unes que les autres. Et là-dessus, on va écouter le docteur Tudor Kotachescu, qui est le chef des soins intensifs au CHUM, le Centre hospitalier universitaire de Montréal. Au CHUM, Yannick, c'est l'unité des soins intensifs qui reçoit et qui traite les victimes d'arrêt cardiaque à leur arrivée à l'hôpital.
Refroidir le corps et en fait les cellules de l'organisme vise à diminuer au maximum les besoins en énergie de ces cellules-là, énergie dont elles ont besoin pour maintenir leur métabolisme, pour maintenir les processus cellulaires nécessaires à leur vie. Aussitôt que le cœur ne fournit plus l'apport sanguin et donc l'apport en nutriments nécessaires à la cellule. La cellule voit cet apport-là se péricliter et donc, si on ne fait pas quelque chose rapidement, soit restaurer la circulation, soit diminuer au maximum les besoins cellulaires pour lui permettre de rester le plus longtemps possible sur ses réserves, bien, la cellule va mourir. On ne peut pas garder le cœur arrêté, quelle que soit la température de l'individu. Une fois que le cœur est reparti, il y a certains dommages cellulaires qui se sont installés pour empêcher qu'ils augmentent. Ben, on maintient cet état d'hypothermie pour les premières 24 heures. Dépendamment de l'individu qui ça arrive, là, l'arrêt cardiaque et quelles sont les conditions. Une fois le cœur reparti, une fois qu'on est arrivé dans une unité de soins intensifs, on commence les manœuvres d'hypothermie. Ça devrait être à l'intérieur d'un délai de 1 à 4 heures, gros maximum.
Quelles sont les méthodes qui sont utilisées actuellement en milieu hospitalier, justement, pour refroidir le corps?
Il y a plusieurs modalités, puis si je pars de la moins efficace vers la plus efficace, on peut soit mettre le patient sous un matelas où circule du liquide froid, sauf que la surface de contact est très faible, puis les succès qu'on obtient avec ça sont pour le moins mitigés. Numéro 2, on peut couvrir le patient avec des matelas dans lesquels circule de l'air froid. Là, la surface de contact est plus grande, mais par contre, l'interface air et corps présente un mauvais échange thermique, donc là aussi, le succès n'est pas spectaculaire. Il y a d'autres méthodes comme dénuder le patient, l'asperger d'alcool ou d'eau en mettant des ventilateurs pour évaporer ce liquide-là et donc en s'évaporant, la peau et donc le corps refroidi. Et finalement, les méthodes les plus efficaces sont des méthodes qui ont rapport à des échanges thermiques directs, c'est-à-dire on met dans les veines du patient un cathéter qui refroidit le sang. Et ça, c'est la méthode que nous avons privilégiée et qui est extrêmement efficace pour refroidir un patient très vite et le garder froid.
Est-ce que l'application d'une technique de refroidissement, une fois que le patient est arrivé à l'hôpital, est-ce que ça devrait être une pratique standard?
Dans la littérature médicale présentement, nous avons 3 études randomisées, raisonnablement bien faites, qui ont démontré un bénéfice clair de cette technique-là sur les premières 24 heures. Donc, à mon avis, oui, ça devrait être un standard. Tout patient comateux après un arrêt cardiaque et retour de la circulation spontanée devrait être refroidi pour les premières 24 heures. Ce n'est pas encore la norme, malheureusement, puis pas juste chez nous, mais à l'échelle nord-américaine, mais c'est en train de le devenir, puis je souhaite que ça le devienne le plus rapidement possible.
C'était le docteur Tudor Costachescu, qui est chef du service des soins intensifs au Centre hospitalier de l'Université de Montréal.
Le rhinoché lyanique sera mis sur le marché en Europe dès le début de 2010. Aux États-Unis, c'est toujours à l'étude. Chez nous, Santé Canada n'a pas étudié de demande d'essai expérimental pour cet appareil.
Merci beaucoup, Hugues. Vous écoutez Les Années-Lumière, le magazine d'actualité et de culture scientifique de la première chaîne de Radio-Canada. À venir en deuxième heure, de Rome, un dossier sur la crise alimentaire mondiale. Un drame que Jacques Diouf, le directeur général de la FAO, résume ainsi.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Un enfant vient de mourir de la faim.
C'est ce qu'on appelle résumer un grave problème de façon très claire. Alors c'est le moment maintenant d'arriver au courrier des auditeurs et voici la question de la semaine.
Mon nom c'est Louise Laforêt de Montréal. Ma question est la suivante concernant les virus. On sait maintenant que l'utilisation abusive d'antibiotiques entraîne la venue de bactéries plus résistantes. Alors, par un phénomène similaire, est-ce que la vaccination à grande échelle peut accélérer la mutation de virus en souches plus virulentes? Merci, au revoir.
Alors, pour répondre à Mme Laforêt, Gaëlle, Lucia Berdou a contacté le microbiologiste et infectiologue Richard Marchand de l'Institut de cardiologie de Montréal.
Monsieur Marchand, est-ce que les vaccins ou la vaccination de masse peut accélérer la mutation d'un virus?
Au sens où on le comprend, non, pas comme tel, parce que quand on utilise des antibiotiques, on agit directement sur la bactérie, et quand on utilise un vaccin, on n'agit pas sur le virus, on agit sur les défenses de la personne qui peut être infectée. Quand on utilise un vaccin, on utilise des fragments de virus, par exemple, pour induire la production d'anticorps et de globules blancs capables de s'attaquer au virus. Et quand on regarde maintenant comment les globules blancs ou les anticorps s'attaquent au virus, ils s'attaquent au virus dans sa forme telle qu'il a été fait en vaccin. Si le virus change, mute, devenait plus résistant ou plus toxique ou autre, donc suffisamment différent, les systèmes immunitaires, donc ces anticorps et ces globules blancs-là, seraient incapables de s'adapter. Et c'est pour ça que c'est très spécifique, la réponse immunitaire. Hein. Ça s'attaque à un virus ou une bactérie sous une forme donnée et uniquement cette forme-là.
Et c'est pour ça que, dans le cas, par exemple, des vaccins contre la grippe saisonnière, chaque année, on doit refaire le vaccin parce que le virus a changé.
Parce que le virus, effectivement, change au fur et à mesure qu'il évolue dans les populations.
Mais il ne s'est pas transformé à cause du vaccin.
Non, c'est pas à cause du vaccin. Il se transforme parce qu'il se réplique à haute vitesse à l'intérieur dans les cellules des gens qui l'infectent. Et quand on se réplique à haute vitesse, on se reproduit. Il est très fréquent qu'il y ait des erreurs de copie, si on veut. Hein. C'est comme si on recopiait des feuilles à répétition à la main. Là. Mais à un moment donné, on peut changer un mot, changer une phrase, déplacer un point, une virgule. Mais les virus, c'est ça qui leur arrive. Donc, ils se transforment comme ça.
Monsieur Marchand, notre auditrice utilisait la question des bactéries qui deviennent résistantes aux antibiotiques pour comparer ça au virus et au vaccin. Est-ce qu'il y a en revanche une comparaison à faire entre les virus et les médicaments antiviraux?
Ah là, tout à fait. Les antiviraux, un peu comme les antibactériens, viennent jouer et influencer directement le comportement des virus et peuvent induire des mutations, des résistances. Donc, les antiviraux, en fait, les médicaments qui viennent jouer dans la synthèse et la réplication de ces virus-là, ont la capacité d'induire des mutations, surtout si on les utilise à petite quantité. Quand on utilise un antiviral comme un antibiotique, il faut l'utiliser à bonne dose et de bonne façon. Si on l'utilise de façon limite, là, bien, on permet au virus de survivre et de s'adapter et de se modifier.
Vous voulez dire si on en prend, par exemple, seulement un peu?
Un petit peu. Ça va induire et ça peut favoriser l'apparition de souches résistantes.
Et pour quelle raison? Quelle différence ça fait?
Prenons un exemple. Si j'expose une bactérie ou un virus à une petite quantité d'antibiotiques, suffisant pour lui nuire, mais pas assez pour le tuer. Alors, le microbe qui va survivre va s'adapter. Alors, c'est la même chose si à chaque fois que vous passez dans un corridor, je vous donne un coup de marteau, bien, vous allez finir par changer de corridor. Or, les êtres vivants s'adaptent à leur environnement et quand on les soumet dans un environnement qui ne les tue pas, mais qui leur nuit, bien, ils finissent par développer une résistance ou une façon de contourner cette nuisance.
Dans le cas de la grippe qui nous intéresse le plus ces jours-ci, M. Marchand, la fameuse grippe AH1N1, on a déjà vu des cas de résistance au Tamiflu, aux antiviraux. Est-ce qu'on peut imaginer que cette résistance-là va se développer rapidement?
La réponse, c'est fort probable. D'abord parce qu'on utilise l'antiviral lui-même, qui est le Tamiflu, qui, s'il est utilisé à mauvais escient, va induire ou faciliter ces résistances-là. Mais on sait aussi qu'il y avait dans la population des grippes saisonnières H1N1 depuis quelques années et que toutes ces grippes saisonnières H1N1 étaient résistantes au Tamiflu. Donc, ce n'est qu'une question de temps que le virus emprunte aux autres virus qui circulaient ce gène de résistance et se dissémine. Donc, actuellement, on a quelques 28 ou 30 souches dans le monde qui ont été rapportées, mais on peut prédire que d'ici un an ou deux, le virus pourrait être résistant à une plus grande échelle.
Merci beaucoup, M. Marchand.
Bienvenue.
Gaëlle, Lucia Berdou interviewait le microbiologiste Richard Marchand de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et pour nous poser vos questions, vous avez donc le choix, le téléphone ou le courriel. Le téléphone de la région de Montréal, vous composez le 514 1-800-597-6166. D'ailleurs, au pays, vous faites le 1-800-752-9050, c'est sans frais, bien sûr. Et puis, vous avez aussi le courriel lumière@radio-canada.ca. La chronique des années-lumière avec Marie-Dominique Beaulieu cette semaine. Bonjour Marie-Dominique.
Bonjour.
Médecin au CHUM, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, pour parler d'un sujet assez étonnant, celui de la douleur chez les nouveau-nés, chez les nourrissons, les prématurés même, ou même les enfants à terme. C'est incroyable parce que pendant longtemps, on a pensé que les nouveau-nés ne ressentaient pas la douleur. On faisait même des interventions, bon, des petites interventions chirurgicales sans analgésie. Marie-Dominique, les choses commencent à changer, heureusement.
Heureusement, oui. Effectivement.
Alors, les nouveau-nés, est-ce que ça ressent la douleur d'abord?
Alors, voilà, on a longtemps cru. On sait que les enfants naissent avec un système nerveux qui est immature à bien des égards, que ce soit au niveau de la vision, la coordination. Et donc, on a longtemps cru que les réseaux nerveux qui transmettaient la douleur étaient aussi immatures et incapables de bien fonctionner. Surtout chez les prématurés. Et puis, bien sûr, l'absence d'alternative verbale à l'expression de la douleur chez les très, très, très petits a un petit peu entretenu ce mythe. Mais vous me voyez venir, on peut dire que c'est un mythe qui a été déboulonné récemment. Mais c'est au début des années 80 qu'il commence à avoir des données scientifiques qui montre des réactions physiologiques qu'on sait associées au stress, comme l'accélération du rythme cardiaque, de la respiration, hein, la sécrétion d'adrénaline ou de cortisol, suite à l'exposition à des stimuli qu'on savait douloureux, comme une piqûre chez des nouveau-nés. Ensuite, le développement de l'imagerie du système nerveux central a permis d'observer des perturbations là, au niveau de l'imagerie dans certaines régions du cerveau suite à l'exposition encore à des stimuli douloureux. Et en fait, c'est un petit peu plus tard dans cette même période qu'on a découvert aussi que le système nerveux sensitif du fœtus est pleinement fonctionnel à l'intérieur du deuxième trimestre de gestation.
Donc, très tôt, bien avant la naissance.
Donc, bien avant la naissance, autour du 4-5e mois. Donc, le système douloureux, le système nerveux qui transmet la douleur est donc très fonctionnel.
Donc, ça, c'est il y a moins d'une trentaine d'années.
Oui, une vingtaine d'années. Mais on peut dire que c'est récemment. Ce n'est qu'en 2005 qu'une étude française réalisée dans des unités néonatales a vraiment sonné l'alarme. Et je pense qu'on pourrait dire que dans la communauté là, des unités néonatales a été un électrochoc.
Ah oui?
On a suivi 430 nouveau-nés hospitalisés pendant 14 jours dans des unités néonatales et on a décompté près de, écoutez ça, 70 000 procédures. On compte tout, on compte les piqûres, la suction, il y a beaucoup de choses chez les bébés, les nourrissons très malades. Donc, dont 70 % étaient carrément douloureuses et 30 % plus stressantes parce qu'on immobilise le bébé ou bon. Et bon, pour une moyenne de 115 procédures par enfant dans le 14 jours, et si on excluait donc les techniques, les enfants qui avaient, comme vous le dites, des interventions chirurgicales qui étaient déjà sous analgésie profonde ou des enfants sous respirateur, seulement 21 de ces gestes avaient été précédés d'un traitement analgésique pour prévenir la douleur.
Ce qu'on disait au début, donc on pensait qu'il n'y avait pas de douleur chez le nouveau-né, pas de perception de la douleur.
Exact. Donc, il n'y a aucun doute que les nouveau-nés et les grands prématurés peuvent ressentir la douleur.
Et qu'est-ce que ça fait justement, bon, à part le fait de ressentir la douleur, est-ce qu'il y a des conséquences à ce fait-là, cette perception de la douleur?
Oui, alors, donc, ce qui est intéressant, on commence à regarder ça et on voit en fait que l'expérience de la douleur a des conséquences à court ou moyen terme chez les enfants. Par exemple, encore plusieurs études, là, il faut dire que c'est un sujet moins bien défriché au niveau de la connaissance scientifique. Par exemple, on a suivi des enfants de mères diabétiques chez qui on fait souvent là, des prises de sang sur le talon pendant à plusieurs heures là, dans les premiers jours de vie pour voir si elles ne font pas d'hypoglycémie. Et ensuite, on les a suivis et on a remarqué que même plus tard, plus âgés, enfants, ils exprimaient plus de douleur quand ils avaient des prises de sang. On a aussi suivi des enfants circoncis sans aucune analgésie.
Oui, ça aussi.
Voilà. Pour remarquer que plusieurs mois plus tard, à 2, 4, 6 mois, ils avaient l'air de ressentir plus de douleur lors de la vaccination. Donc, un genre
donc, ça laisse une
stimulation
trace, c'est ça, oui.
du système mmh. de la douleur, donc très tôt, qui fait qu'on devient hyper réactive. Et d'autres études intéressantes suggèrent que le contrôle de la douleur peut améliorer l'évolution, notamment en chirurgie. Donc, des enfants très jeunes, donc des nouveau-nés opérés, s'ils sont exposés à des doses vraiment optimales d'analgésiques, peuvent avoir une récupération plus rapide. Mm-hmm.
Ce qui n'est pas surprenant,
non,
finalement.
Bien
c'est
sûr.
Ça, ouais.
Donc, il y a vraiment des conséquences à une douleur mal soulagée
alors, on parle,
chez le bébé.
La douleur, c'est quelque chose qui est rentré en médecine il y a quand même finalement pas très longtemps. Hein.
Voilà.
Dans le temps, les médecins n'avaient pas grand cours sur la douleur dans leurs cours.
C'est vrai.
Là, maintenant, on parle de la douleur chez les nourrissons. Un des problèmes, c'est l'évaluation de la douleur. Comment on fait pour un nouveau-né?
C'est un grand défi. En fait, les différentes échelles de notation se basent sur en fait, des signes indirects de la douleur. Le rythme cardiaque et le rythme respiratoire.
Peuvent augmenter, j'imagine.
Les pleurs, l'expression faciale de l'inconfort de l'enfant et les mouvements du corps.
Mm-hmm.
Donc, il y a différentes échelles qui
semblent assez disons, naturel.
Hein.
Ça
oui.
prend pas un doctorat en médecine pour voir si l'enfant pleure, il a peut-être mal.
Non, effectivement.
Mais enfin, on a développé des échelles pour évaluer ça. Hein.
Oui,
c'est
effectivement.
C'est intéressant. Et les traitements?
Bon, alors il y a des traitements, bien sûr, l'analgésie. Je pense qu'on arrive à... On voit aussi qu'on avait peur de donner des
il y a ça aussi. Hein,
oui, aux très jeunes enfants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les traitements sophistiqués de la douleur, mais des petites choses simples. Par exemple, on a découvert que des solutions sucrées, une petite cuillerée à thé d'une solution de sucrose bien sucrée, là, réduit la douleur associée même à la vaccination jusque vers 3 mois.
Oui, c'est bien.
Il y a des endroits où on en donne systématiquement. Mais des choses très simples aussi, donc la sucette,
ben oui,
qu'on aime bien utiliser, l'allaitement au sein, ce qu'on appelle de façon très sophistiquée la stimulation sensorielle, mais parler beaucoup à l'enfant pendant qu'on fait une technique, chanter, le rassurer, c'est une chose. Il pense à autre chose.
Oui, exactement, oui.
Emmailloter l'enfant, l'anesthésie locale, de plus en plus, on utilise des crèmes.
On fait des petites crèmes, oui.
Exprès pour diminuer. Et puis, notre bonne acétaminophène est aussi efficace.
C'est aussi efficace. Conséquence de tout ça, heureusement, on le voit, ça, la science va jusqu'aux autorités médicales.
Oui, alors en 2006, en fait, je pense suite à cette étude française dont on a parlé, en 2006, les associations canadiennes et américaines de pédiatrie ont vraiment fait une recommandation à l'effet que toutes les unités néonatales doivent avoir une politique de prévention et de monitorage et de traitement de la douleur dans leur milieu.
C'est une bonne idée.
Oui. Tout à fait.
Il était temps.
Oui. Bien oui. Et en fait, où on va conseiller, donc former le personnel, adapter une des échelles d'évaluation et penser à l'appliquer régulièrement, comme on prend les signes vitaux, on prend la tension artérielle 3-4 fois par jour d'un enfant dans une unité néonatale, mais aussi de monitorer et d'utiliser cette échelle de dépistage de la douleur et aussi d'essayer de coordonner les soins pour pas faire trop de gestes potentiellement douloureux.
Exactement.
Et de les réduire pour, en fait, diminuer la fréquence de l'exposition à des stimuli potentiellement douloureux.
Et c'est ainsi que nos petits nouveaux-nés vont mieux aller?
Eh oui, tout
à fait. Merci beaucoup, Marie-Dominique.
Ça m'a fait plaisir.
Et voilà, c'est la fin de la première heure des Années-Lumière. Ce soir, la télé de Radio-Canada à 18h30, c'est Découverte. Premier sujet, le prochain Neptune, le plus grand observatoire sous-marin automatisé au monde qui est sur le point d'être mis en service au large de l'île de Vancouver. Et un autre sujet, les hybrides branchables, les auto-hybrides rechargeables qui devraient être sur le marché dès 2010. Ça, c'est ce soir à la télé, mais pour l'instant, à la radio, c'est le bulletin de nouvelles et la deuxième heure des Années-Lumière. Les Années-Lumière, deuxième heure. Rebonjour, re-bienvenue aux Années Lumière, votre magazine d'actualité de culture scientifique. Yannick Villieu, toujours et l'équipe, pour vous présenter ce beau magazine. Alors, cette deuxième heure, on va la commencer à Rome avec Chantal Srivastava, qui nous propose son reportage sur le sommet mondial de la sécurité alimentaire. On aura ensuite le petit journal de la science. Et pour terminer, Sophie-André Blondin va recevoir l'auteur de la semaine. Il s'agit du mathématicien Nicolas Gauvry, qui vient de publier aux éditions Belin pour la science un livre intitulé « Vous avez dit hasard ?»
Deux, trois, quatre, cinq, six. Un enfant vient de mourir de la faim.
Celui qu'on vient d'entendre s'appelle Jacques Diouf. Il est le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture. À son invitation, 60 chefs d'État, 191 ministres et 3646 délégués de plus de 180 pays ont convergé vers Rome cette semaine pour un sommet mondial sur la sécurité alimentaire. Alors Chantal Srivastava, c'est de Rome que vous nous faites aujourd'hui un compte-rendu de cette rencontre. Est-ce qu'on peut dire que c'est un sommet qui va passer à l'histoire?
Une chose est sûre, en tout cas Yannick, ce sommet s'est déroulé dans un contexte sans précédent, sur fond de crise financière, de changement climatique, alors que l'insécurité alimentaire et la faim dans le monde atteignent des sommets inégalés. 1 milliard de personnes souffrent de la faim. Ça veut dire 1 humain sur 6 qui ne mange pas à sa faim. Et c'est sans parler des marchés qui s'affolent sous les pressions diverses. On peut penser entre autres aux biocarburants. Bref, la situation est telle que même dans des pays dits « développés », entre guillemets, comme l'Italie où je suis présentement, on a imaginé vivement protester il n'y a pas si longtemps contre la hausse du prix des pastas.
Manifestation importante, effectivement. Alors, de ce sommet, j'imagine, Chantal, on va retenir la déclaration, une déclaration de 8 pages.
Une déclaration unanime qui réitère l'engagement de diminuer de moitié la faim dans le monde d'ici 2015. À noter également que, pour la première fois, Yannick, on met officiellement à contribution des ONG dans ce qu'on appelle la gouvernance internationale. On les invite à participer à un comité sur la sécurité alimentaire mandaté par la FAO et on s'est également engagé à travailler pour limiter l'impact des changements climatiques sur la sécurité alimentaire. Maintenant, sur le plan financier, on promet d'augmenter les investissements dans le secteur agricole dans le cadre des programmes d'aide au développement, sauf que tout cela reste à être mis en œuvre. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette déclaration, c'est beaucoup moins que ce que souhaitaient les experts de la FAO. Par exemple, on ne s'est pas engagé à éradiquer la faim dans le monde d'ici 2025, tel que recommandé. Et vous savez, quand on dit qu'on réduit de moitié d'ici à 2015 le nombre d'affamés, ça veut dire qu'on laisse sur le carreau 500 millions de personnes. Et ça, c'est inacceptable pour Jacques Diouf, le directeur général de la FAO. Jacques Diouf se désole aussi du fait qu'on n'ait pas chiffré les engagements financiers et surtout, il s'est dit très déçu que les chefs d'État du G8 n'aient pas cru bon de se déplacer pour venir ici à ce sommet auquel il les avait conviés. Hormis, bien sûr, Silvio Berlusconi, le chef du gouvernement italien, qui a agi en bon hôte et a fait acte de présence. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Jacques Diouf alors qu'en conférence de presse, à l'issue du sommet, il déplorait l'absence de ses chefs d'État.
J'aurais espéré avoir dans un sommet de chefs d'État et de gouvernement tous les pays représentés au niveau de leurs chefs d'État et de gouvernement et pas seulement pour des raisons à caractère protocolaire, non. C'est tout simplement parce que nous sommes convaincus que les problèmes de l'agriculture dépassent les ministres de l'agriculture. Les ministres de l'agriculture, je le dis souvent, ont les problèmes de l'agriculture. Ils n'ont pas de solutions. Financement de l'agriculture n'est pas décidé par les ministres de l'agriculture. Le commerce agricole, importation, exportation, ce n'est pas décidé par les ministres de l'agriculture. Et naturellement, les négociations internationales sur le commerce agricole sont souvent conduites par les ministres du commerce. les négociations avec les bailleurs de fonds bilatéraux et multilatéraux sont en général réalisées par les ministres de la coopération ou des affaires étrangères, pas les ministres de l'agriculture. Les infrastructures, routes, etc., qui ont un impact sur la productivité, la production agricole, ce ne sont pas les ministres de l'agriculture. Et je peux continuer. Et donc, si nous n'avons pas les chefs d'État ou de gouvernement qui ont autorité sur tous les ministres, qui peuvent coordonner l'action pour venir discuter de ces questions, de l'aide au développement, etc., je pense que nous passons à côté du problème, puisque nous réduisons la question à sa dimension purement technique, alors que c'est une dimension économique, c'est une dimension sociale, c'est une dimension financière, je dirais même une dimension culturelle, parce que l'agriculture et la culture, comme disait quelqu'un, entre les deux, il y a juste un champ.
Jacques Diouf, donc directeur général de la FAO, qui vient de le dire, hein, Chantal Srivastava, la sécurité alimentaire, ce n'est pas qu'une question d'agriculture et de technique.
Et non, c'est avant tout une histoire de gros sous et de politique. À cet égard, il faut par ailleurs noter, Yannick, que même si la déclaration du sommet insiste sur la nécessité d'augmenter les investissements dans les pays en voie de développement pour accroître la productivité agricole, on reste par ailleurs très vague quant à la manière de le faire, et ce n'est là qu'une des lacunes identifiées par Olivier de Schutter, rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation.
Chaque mot a été soigneusement pesé, puisque ces négociations se sont déroulées pendant des semaines à Rome, et qu'elles sont le résultat d'un compromis extrêmement subtil entre des intérêts très divergents parfois. Alors il est clair que la déclaration est décevante sur une série de points. D'abord, et c'est la lacune la plus remarquable, elle ne contient pas d'engagement chiffré, elle ne contient pas de calendrier précis qui permettent de placer les États face à leurs obligations. Par ailleurs, il y a toute une série de sujets qui ont été laissés de côté, pratiquement tabous, ou bien simplement évoqués pour signaler que l'on va faire des études complémentaires pour garder la question à l'agenda, mais sans vraiment qu'on ait abordé les questions les plus difficiles.
De votre point de vue, M. de Schutter, qu'est-ce qu'on aurait dû inclure dans cette déclaration et qu'on a passé sous silence parce que c'est tabou, comme le dites-vous?
Je crois qu'il y a trois questions qui, très clairement, sont problématiques aujourd'hui et permettent de prédire, sans grand risque de se tromper, que nous allons vers des nouvelles crises à l'avenir. Et ces trois questions qui n'ont pas été traitées et qui nous place face à cette vulnérabilité, ce sont d'abord la question des agrocarburants qui a été au fond le déclencheur de la crise de 2007-2008. C'est notamment la spéculation qui a démarré au départ de la production d'agrocarburants. C'est deuxièmement la volatilité des prix sur les marchés agricoles pour laquelle on n'a pas vraiment de solution et qu'on a refusé vraiment de traiter, bien que le problème soit évoqué. Et troisième lacune, c'est ce nouveau monopoly vers des terres arables dans les pays en développement que les États de plus en plus cherchent à s'approprier ou à louer pour des longues périodes pour garantir leur sécurité alimentaire. Cette course vers l'accaparement de terres qui concerne aujourd'hui près de 30 millions d'hectares, c'est-à-dire une fois et demie la surface arable de la France par exemple, c'est véritablement un phénomène qui se développe à très très grande vitesse et qui pose beaucoup de problèmes pour les communautés locales qui sont dans les pays qui sont les cibles de ces achats massifs de terres.
Qui achète quoi, où? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a une idée de la teneur des contrats, des montants qui sont payés? On parle de baux, de locations, d'investisseurs privés. Comment ça se passe? Et est-ce que la FAO pourrait vraiment faire quelque chose pour éviter cela?
Alors, on a une vue du phénomène qui n'est pas parfaitement fidèle à la réalité parce que beaucoup de ces négociations sont secrètes et ne sont pas débattues publiquement, ne sont pas présentées devant les parlements, n'impliquent pas les ONG, et c'est d'ailleurs un des problèmes. Ce qu'on peut dire, c'est que l'essentiel de cette ruée vers les terres arables est le fait du secteur privé, même si les négociations les plus spectaculaires discutées dans les médias concernent notamment des gouvernements, et ceci est un phénomène nouveau, qui achètent de la terre à l'étranger, ou bien louent la terre pour des très longs baux de 75 ou de 99 années. Et les pays acheteurs, ce sont des pays qui ont des besoins importants en matière alimentaire qui ne peuvent pas satisfaire en raison de l'épuisement de leurs ressources naturelles ou de la croissance démographique trop forte chez eux. Parmi les acheteurs, il y a la Chine, Il y a la Corée du Sud, il y a la Libye, il y a les pays du Golfe, par exemple. Ce sont des pays qui ont des ressources, mais qui ne parviennent pas à produire suffisamment, ou en tout cas craignent de ne pas pouvoir produire suffisamment à l'avenir. Et les pays cibles, ce sont les pays en développement, les pays en souvent à faible gouvernance, notamment dans l'Afrique subsaharienne, où la terre est peu chère, où les populations locales sont relativement peu protégées, où la main-d'œuvre est très peu chère, ce qui permet de faire rapidement des investissements qui seront très vite rentables.
Est-ce que l'Arabie saoudite fait partie de cette liste?
L'Arabie saoudite fait partie des principaux acheteurs. Elle a notamment beaucoup acheté dans deux pays, le Soudan d'une part et le Pakistan d'autre part. Et c'est évidemment une situation tout à fait typique que celle de l'Arabie saoudite, qui ne peut pas satisfaire à ses besoins alimentaires et qui se rend compte que les marchés internationaux sont de moins en moins fiables, avec des prix de plus en plus volatiles. Et donc, pour garantir sa sécurité alimentaire, l'Arabie saoudite achète à l'étranger des terres qu'elle va faire fructifier et qui, essentiellement, vont produire de la nourriture qu'elle va pouvoir réimporter chez elle.
Est-ce que ce n'est pas la même Arabie saoudite qui finance le sommet ici, à hauteur de 2,5 millions de dollars?
Absolument. Vous savez, ces pays qui achètent des terres sont des pays qui ont besoin aussi d'acheter une réputation. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle un des pays qui est le plus en pointe dans ces débats, c'est le Japon, qui, paradoxalement, est un pays qui, depuis des années, achète des terres à l'étranger ou les loue pour sa sécurité alimentaire et qui veut faire les choses de manière à ce que sa réputation ne s'en trouve pas entachée. C'est la raison pour laquelle le Japon, malheureusement encore relativement isolé, souhaite que l'on encadre ce développement, souhaite que l'on aille vers un consensus international sur cette question, et c'est ce à quoi je m'attache avec d'autres acteurs sur la scène internationale à tenter de définir les paramètres d'un ensemble de directives, d'un cadre qui peut-être pourrait orienter ces investissements pour éviter qu'ils ne portent atteinte aux droits des populations locales.
Et dans le cas de l'Arabie saoudite, est-ce qu'ils ont ce désir-là aussi? Bon, le sommet, une façon d'illustrer qu'ils sont sensibles à la problématique, mais dans les faits, dans leur façon d'agir en accaparement des terres, est-ce qu'ils ont encore cette préoccupation-là?
Je crois qu'ils ont surtout la préoccupation que ces choses demeurent en dessous du radar et qu'ils ne souhaitent pas que ces choses soient véritablement débattues dans des cénacles internationaux. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est fait allusion dans la déclaration à ce phénomène, sans véritablement que l'on dise des choses très concrètes et sans que l'on parle d'une régulation de ce phénomène.
Olivier de Schutter, donc rapporteur spécial de l'ONU pour le droit à l'alimentation. Alors, Chantal, de là à dire que l'Arabie saoudite s'est payé un sommet et une déclaration de belles intentions sur la sécurité alimentaire, la marge est mince, me semble.
C'est vous qui le dites, Yannick. Mais ce que je peux vous dire par ailleurs, c'est qu'ici, à la FAO, c'est un sujet dont on n'aime pas beaucoup parler. Cela étant dit, à la FAO, on est conscient des risques de ce qu'on appelle, dans le jargon politiquement correct, l'agriculture délocalisée. Et on souhaite baliser ces pratiques pour promouvoir des investissements étrangers responsables. Mais comme tout le reste, ça reste à accomplir.
Bien sûr, Chantal. Alors, quand on fait fi de ces réserves-là, il reste une question centrale quand même, je crois. Comment nourrir le monde en 2050, alors qu'il y aura, selon les projections, plus de 9 milliards d'humains sur la Terre?
Et qui plus est, il faut dire qu'on estime que 70% de tout ce beau monde vivra en ville, alors que ce pourcentage se situe autour de 50% aujourd'hui. L'urbanisation, qui n'est pas nécessairement un signe de progrès, vous savez, parce que si les paysans vont vivre en ville, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas les moyens de survivre grâce à l'agriculture, et donc ils quittent la campagne pour tenter leur chance en ville, ce qui n'améliore pas nécessairement leur sort. C'est donc tout un casse-tête que celui de l'insécurité alimentaire. Selon la FAO, la solution passe par l'intensification durable des cultures, comme nous l'explique ici Parviz Kouafkan, directeur de la division des terres et des eaux du département de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement à la FAO.
Ça veut dire qu'on augmente le rendement avec les mêmes terres et avec la même quantité d'eau, mais en ajoutant des technologies modernes, des semences améliorées, éventuellement des engrais et de l'irrigation surtout. Avec très peu d'eau, très peu de terre, on peut augmenter de rendement jusqu'à 3, 4, même plus. Ce qui est un peu problématique en Afrique, par exemple, on a une agriculture pluviale. C'est pour ça que les rendements sont bas. Parce qu'on ne peut pas prévoir les calamités des...
Dites-moi, une chose me préoccupe par contre. Est-ce qu'on est sûr qu'on va arriver à intensifier pour avoir suffisamment de production pour nourrir tout le monde? Ou est-ce qu'il faudra éventuellement, de toute façon, étendre les terres?
nourrir tout le monde, en fait, on en a même aujourd'hui assez pour nourrir tout le monde et même nourrir plus qu'on a. Le problème, c'est le problème d'accès. Accès, ça veut dire d'avoir les moyens d'acheter la nourriture. Alors, la sécurité alimentaire n'est pas synonyme à la production. C'est à la distribution et à l'accès. En termes d'intensification pour pouvoir produire plus, 70%, ce qu'on dit actuellement à la FAO, il faut, pour pouvoir nourrir 9 milliards de personnes en 2050, il faudrait augmenter la production agricole globalement de 70% ou en pays en développement de 90%. Est-ce que c'est possible? Évidemment, c'est possible. Parce qu'on a effectivement les technologies disponibles, on a les moyens de le faire. Mais ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple dans ce sens qu'il faut voir quels sont les problèmes qu'on pourrait créer à travers cette intensification, aussi bien pour l'environnement que pour les sociétés. Parce qu'un des problèmes de la révolution verte, c'est qu'ils ont trop concentré sur la technologie, trop concentré sur le rendement économique, et ils ont négliger tout ce qui est l'impact environnemental et l'impact social. Il faut regarder toujours les technologies, comment ils opèrent, dans quel contexte ils opèrent. La technologie tout seul ne peut pas résoudre le problème, parce qu'on peut arriver à avoir une technologie dans un village, mais si on met par exemple une pompe pour pomper de l'eau, on a besoin de maintenance de ce pompe. Est-ce qu'il y a effectivement le service qui va avec ça? Tout ça, c'est les complications que nous avons souvent dans les pays en développement. Et quand on développe certaines technologies, il faut toujours avoir des mesures d'accompagnement, que ce soit vulgarisation agricole, que ce soit le service après-vente. Tout cela, ça complique le développement de technologies dans certaines zones. Et en plus, quand on augmente le rendement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on parvient à résoudre le problème, parce qu'on ne peut pas écouler ces produits.
Comment on se sort de cette situation-là?
Ce sommet, nécessairement, il a ce message à porter, c'est qu'il faut absolument investir en agriculture. Parce que depuis plus de 30 ans, l'agriculture, comme on a arrivé à produire, surtout au niveau global, on a produit, on avait toujours d'excédents aliments. On n'a pas pensé beaucoup aux pauvres et ceux qui n'ont pas accès à la nourriture, mais on a pensé à la quantité de production. On a produit beaucoup. Le denrée alimentaire est devenu très bon marché. Du coup, économiquement, c'était plus viable. Alors, on n'a pas investi dans l'agriculture. C'est encore pire dans les pays en développement ou même. Beaucoup de pays en développement n'ont pas investi dans le secteur agricole parce qu'ils avaient une urbanisation croissante, il y avait le secteur service, etc., etc. Du coup, ce problème est devenu très, très grave dans certaines zones, notamment Afrique, qui se nourrissait avec une agriculture traditionnelle parce que la population n'était pas aussi importante. Mais aussi, il y avait un investissement quand même dans le système agricole. Il arrivait de se nourrir il y a 20 ans, mais maintenant, la plupart des pays africains, ils ne peuvent plus produire suffisamment pour pouvoir se nourrir. Alors, ce développement de technologie devrait nécessairement aller avec investissement dans le secteur rural. Ça veut dire des routes, ça veut dire des infrastructures agricoles comme les canaux d'irrigation, comme les barrages, non pas nécessairement des grands barrages, mais des petits barrages. Il faut que ça se développe en même temps, l'électricité, parce qu'on ne peut pas avoir une technologie moderne si on n'a pas assez d'énergie. Alors il faut des transports, il faut des routes, il faut des systèmes de stockage, des denrées alimentaires, parce qu'une fois qu'on a produit, il faut un temps pour pouvoir écouler sur le marché. Alors toutes ces complexités font qu'on n'arriverait pas de résoudre le problème d'insécurité alimentaire si on ne regarde pas de façon holistique le problème ensemble. Et c'est là où il y a des projets qui, malgré beaucoup, beaucoup d'argent, beaucoup d'investissements, ne réussiront pas parce qu'on vient avec la technologie, on ne regarde pas le tout, l'ensemble. Alors, du coup, ça ne fonctionne pas.
C'était Parviz Kouafkan, directeur de la division des terres et des eaux à la FAO, qui dit, Chantal, en substance, que malgré les avancées technologiques, la révolution verte a fait bien des laissés pour compte.
Et elle enrichit bien des gens par ailleurs aussi, hein, parce que toute une industrie a pu remplir ses poches et nos garde-manger, il ne faut pas l'oublier. C'est très ironique tout cela. Cela dit, un autre élément à considérer, Yannick, c'est la place qu'on a faite à la science et à la recherche scientifique dans cette déclaration du Sommet mondial de la sécurité alimentaire. On a inclus dans la déclaration des dispositions qui appellent la science et surtout les scientifiques à la rescousse. On souhaite créer une espèce de GIEC de la sécurité alimentaire, un peu comme ce fameux groupe d'experts de l'ONU sur l'évolution du climat. Un GIEC version agricole sera formé dans l'année qui vient. Comment et par qui? C'est ce que j'ai demandé à Émile Frison, agronome de formation et directeur général de Biodiversity International. C'est un groupe rattaché au Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale, une organisation qui chapeaute plus de 3000 chercheurs dans le monde, des chercheurs préoccupés par le sort des plus démunis. Émile Frison fait partie du groupe de sages qui seront consultés pour identifier les membres potentiels de ce groupe d'experts.
Le processus de sélection n'a pas encore été défini exactement. Donc, ce comité d'experts est destiné à apporter une base scientifique qui permettra d'apporter donc la contribution de la science aux orientations politiques à venir. Ça, c'est le domaine immédiat.
Qui fera partie de ce comité?
On devrait avoir une sélection basée vraiment sur les compétences scientifiques. Et évidemment, on essaiera d'avoir un équilibre nord-sud, un équilibre de genre, etc. Mais il ne faut pas que ça devienne un enjeu politique ou des nominations politiques. Il faut que ce soit vraiment un comité d'experts. J'espère véritablement qu'on se base sur les compétences scientifiques et non pas sur les choix politiques.
Parce qu'il y a un risque, il est réel ce risque.
Disons qu'on a connu beaucoup de processus dans le passé où ce genre de comité d'expertise était mis en place, mais en fait, chaque région et chaque même sous-région voulait s'assurer qu'il y ait une représentation. Et lorsqu'on fait ce genre de choses, il y a toujours un prix à payer au niveau à l'encontre des compétences.
Donc, des compromis à faire.
Oui, et j'espère que ce ne sera pas le cas ici. En tout cas, il y a beaucoup de membres qui ont exprimé leur volonté d'avoir une sélection véritablement basée sur les compétences.
On sait combien d'experts on voudrait avoir sur ce comité?
Le nombre exact n'a pas encore été défini. Ce qui était envisagé, et j'espère que ce sera retenu, c'est un nombre relativement petit qui permettra de mobiliser des groupes ad hoc en fonction des questions à traiter et là de faire appel à un pool d'experts beaucoup plus large. Mais il ne faut pas oublier que ce comité d'experts ne traite que des savoirs que l'on a aujourd'hui et ça ne suffit pas. Il faut qu'également on investisse dans la recherche pour répondre aux problèmes de demain.
Reste maintenant à voir comment tous ces engagements vont aider bien concrètement les paysans qui, on peut le dire, en arrachent dans leurs champs.
J'ai en tout cas pu constater, Yannick, cette semaine, qu'il y a une réelle volonté de les aider. Et d'ailleurs, on a aussi réussi parfois, il faut le dire, à améliorer leur situation de manière durable. Je vous propose de voir comment on peut même parfois conjuguer aide d'urgence et développement agricole durable. Christina Amaral est chef du service des opérations d'urgence à la FAO. Elle nous raconte une belle histoire qui s'est déroulée dans la Perle des Antilles.
Dans le cas d'Haïti, par exemple, c'est un des pays où nous travaillons il y a longtemps. Bon, de deux ans, il y a un hurricane qui inonde les vallées. Il y a vraiment des catastrophes naturelles qui vont sur une population qui est déjà très pauvre, qui a déjà peu de ressources. Et on se confrontait à devoir importer des semences pour que le paysan puisse relancer la production. Et on constatait qu'on n'arrivait jamais à arriver à temps avec la semence pour faire vraiment une plantation. Alors on a fait tout un programme avec les communautés villageoises, avec les organisations vraiment de base, de créer des groupes et un réseau de producteurs de semences au niveau des communautés, de les spécialiser, de faire de la formation, de faire une formation de paysan à paysan, de façon qu'il y a un premier groupe qui apprend et qui après transmet son expérience au deuxième groupe. Et on a constitué des stocks de semences d'haricots des villages. Aujourd'hui, on a 600 tonnes sur un besoin total de semences d'haricots, qui est à peu près 2000 tonnes, qui sont produits par des petits paysans, parce que on a travaillé avec l'Institut de recherche qui a produit les premières semences de base, qui ont été après multipliées par des groupes de paysans multiplicateurs qui avaient de la formation, qui ont reçu de l'aide sur les produits qu'ils devaient utiliser, les techniques, à quel moment faire certains types de traitements, de façon qu'ils puissent avoir des haricots qui n'ont pas de maladie, qui sont vraiment des semences de qualité, qui ont de la vigueur pour germiner en grande quantité. Et avec ces semences, ils ont contribué à la production d'autres producteurs qui ont fait un deuxième cycle de multiplication. Et on a, avec l'argent de projet, au lieu d'importer des semences, on a payé le stockage et le traitement des semences au niveau des villages.
C'était la chef du service d'opération d'urgence à la FAO, Christina Amaral. Alors sur le terrain, Chantal, les paysans eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça, de ce sommet, de la manière de leur venir en aide? Est-ce qu'on a une idée de ça?
J'en ai parlé avec un agriculteur africain qui a beaucoup fait pour le mouvement paysan en Afrique. Il s'appelle Mamadou Sissoko. Il vit au Sénégal. C'est le président d'honneur du ROPA. Ça, c'est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Sur sa terre, il cultive du sorgho, du millet. Et il s'inquiète aussi du peu de moyens dont il dispose et des politiques agricoles qui sont déficientes dans plusieurs pays en voie de développement.
On a besoin de coopérer. La coopération internationale, on doit faire partie, mais il faut que ça se fasse en fonction de nos priorités. Et que pour que nous puissions bien négocier, il faut que nous réglions d'abord ça. Un affamé ne négocie pas. Donc un chef d'État, donc qui a 10, 20, 30% de sa population en insécurité alimentaire, il ne négocie pas. Donc nous devons régler d'abord ça entre nous et maintenant être assez forts pour nous asseoir. Nous pensons les paysans, on n'a pas honte de vivre dans des villages qui n'ont pas de lumière. On n'a pas honte de vivre dans des villages en utilisant l'eau des puits. Nous n'avons pas honte de ne pas avoir des pistes solides. Nous n'avons pas honte de ne pas avoir des universités dans les villes. Mais nous avons honte d'avoir faim. Parce que un peuple qui a faim, c'est un peuple qui n'avance pas. Et c'est ça qu'il faut quand même. Donc investissons avec nos ressources et nos possibilités pour régler ça. Et soyons capables maintenant d'aller nous asseoir autour de la table pour discuter. C'est ça que nous voulons défendre dans notre région. On sait produire. Et la preuve en est que quand on a lancé le coton chez nous, on est parti de 200 000 tonnes pour la région. Aujourd'hui, on est à 3-4 millions. Donc, on sait produire. Mais dans toute activité humaine, donc c'est le revenu qui détermine la production. Et c'est sur ça qu'on ne travaille pas. Alors, parce que ce qu'on ne dit jamais, ou on le dit rarement, on parle que les États mettent de l'argent, les bailleurs de fonds. Mais 85% des investissements pour l'agriculture, l'élevage et la pêche, ce sont les paysans qui le font. C'est nous qui finançons.
Ces montants qui viennent de l'extérieur financent quoi alors?
Mais écoute, voilà. D'abord, l'État, il finance la recherche. Et souvent en partenariat avec les bailleurs de fonds. Les routes, peut-être, les pistes, mais les semences, le matériel pour travailler, la valorisation du travail, parce qu'on suit pour produire, ça c'est nous. Le crédit que nous prenons avec les taux d'intérêt, c'est nous. Donc, il faut qu'on mette au centre les paysans, leur communauté, leur culture, pour régler l'insécurité alimentaire.
Est-ce que la recherche, vous faisiez référence au fait que l'argent sert parfois à financer la recherche, est-ce que la recherche vous vient de quelque manière que ce soit en aide?
Oui, on a une recherche qui fait des choses. Bon.
Comme par exemple?
Par exemple, les semences. Quand il y a eu la sécheresse, on avait des variétés pour 4, 5, 6 mois. Ils ont sorti des variétés maintenant de 3 mois, de 70 jours, etc.
C'est-à-dire
des variétés dont la durée, c'est-à-dire que le temps entre les semis et la récolte, on avait des variétés traditionnelles de 4-6 mois parce qu'il pleuvait 4-6 mois. Alors maintenant qu'il y a eu la rareté des pluies souvent, ils ont donc actuellement des semences de très bonne qualité que les paysans achètent, ils sèment. Et puis, par exemple, on a du haricot chez nous qu'on récolte en 45 jours. Ça, c'était pour répondre au changement climatique, etc. Donc, les chercheurs, c'est vrai, ils ne font pas
tout ce que nous voulons, mais ils font des choses. Et les gouvernements aussi, ils mettent de l'argent, mais ce n'est pas suffisant.
C'était donc Mamadou Sissoko du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest. Il est sénégalais. Alors, manque de ressources criants, mais aussi manque de volonté politique, hein, Chantal, de la part des autorités concernées.
Parce que bien des paysans ont été laissés de côté par leurs propres autorités. Ils ont aussi subi, Yannick, les contre-coups des grandes règles qui gouvernent le commerce international des denrées et dont bénéficient par ailleurs de grandes multinationales qui, elles, engrangent les profits. Et à l'heure actuelle, des gens comme Mamadou Sissoko, qu'on vient d'entendre, ne sont pas équipés pour jouer à ce jeu-là. Et vous savez, en conclusion, je vous dirais que j'ai rencontré sur la rue un délégué de l'île Maurice, qui est un pays qui ne s'en sort quand même pas trop mal. Et il m'a dit, ne sachant pas que j'étais journaliste, « Vous savez, madame, c'est bien qu'on ait beaucoup parlé de la faim dans le monde cette semaine, mais je ne crois pas que cela va changer quoi que ce soit quand je vais rentrer chez moi. »
Jugement, ma foi, pessimiste. Chantal Srivastava à Rome, je vous remercie beaucoup.
Je vous en prie, Yannick, au revoir.
Au revoir.
Si vous rêvez de remporter le 100 mètres, vous auriez avantage à mesurer vos orteils et vos tendons d'Achille. Selon des chercheurs canadiens et américains, le secret des sprinteurs réside dans des doigts de pied plus longs que la moyenne et des ligaments plus courts. Ils sont arrivés à cette conclusion après avoir étudié la morphologie d'une star de football. Alors qu'ils s'attendaient à trouver un tendon d'Achille particulièrement long qui aurait permis un plus grand effet de levier sur le talon du sportif, ils ont plutôt découvert un tendon particulièrement petit. Leur conclusion, le ligament plus court permet une contraction plus lente du muscle du mollet et donc une force accrue, ce qui améliore l'accélération. Quant aux orteils, ils offrent plus d'appui sur le sol et donc plus de poussée.
L'écart entre la réalité et la science-fiction ne cesse de se rétrécir. IBM affirme être parvenu à construire un ordinateur qui simule le cerveau d'un chat. Il est constitué de 150 000 processeurs et a une mémoire de 140 téraoctets. Avec cet ordinateur, IBM cherche à comprendre comment les pensées se forment dans le cerveau d'un chat, qui comprend 1 milliard de neurones et 10 000 milliards de synapses. Mais pour IBM, ce n'est que la première étape vers la simulation d'un cerveau humain. Il y a cependant loin de la coupe aux lèvres. Son ordinateur, qui simule le cortex cervical d'un chat, n'est pas encore capable de penser de façon autonome, et le cerveau humain est beaucoup plus complexe. Malgré tout, l'équipe de recherche cognitive de IBM croit que la simulation d'un cerveau humain pourrait être chose faite d'ici 10 ans. Et 10 ans, c'est peut-être le temps qui sépare la science-fiction de la réalité.
Une toute petite bactérie pourrait contribuer à éviter des milliers de morts accidentelles chaque année. Il s'agit d'une bactérie qui s'illumine de vert lorsqu'elle entre en contact avec les produits chimiques qui s'échappent des explosifs qui sont enterrés, comme les mines antipersonnelles et les munitions non explosées. Dissoute dans une solution incolore et pulvérisée sur le sol, la bactérie forme en quelques heures des taches vertes facilement détectables, là où des mines terrestres sont enfouies. Ces mines tuent de 15 à 20 000 personnes chaque année et on les trouve dans 87 pays. La bactérie est simple à produire, économique, efficace et sans danger pour les hommes et les animaux, d'après ses concepteurs. Ces étudiants en génie de l'Université d'Édimbourg, qui ont utilisé une technique de manipulation de paquets d'ADN appelée biobreaking, n'ont pas encore de plan pour commercialiser leurs bactéries démineuses.
Et on arrive maintenant à l'auteur de la semaine. Alors, qu'est-ce que le hasard? Au fait, le véritable hasard existe-t-il vraiment? Quelle est la part de science et quelle est la part d'illusion dans nos perceptions du hasard? Pourquoi, par exemple, surestime-t-on nos chances de gagner à la loterie lorsque nous achetons un billet? Pour répondre à ces questions, le mathématicien Nicolas Gauvry a choisi de conjuguer deux domaines du savoir qui se rencontrent plus souvent qu'on ne le croirait. Il signe « Vous avez dit hasard entre mathématiques et psychologie ». C'est publié aux éditions Belin pour la science. Sophie-André Blondin a invité Nicolas Gauvry dans nos studios à Paris pour discuter du hasard, celui qu'on croise tous les jours, mais qu'on a du mal à saisir et à définir.
Nicolas Gauvry, on dit souvent hasard, c'est vrai, quand on parle ni de mathématiques ni de psychologie, mais plutôt de langue en français. C'est un mot, c'est un concept auquel on fait souvent appel dans une journée. Je l'ai rencontré par hasard, le hasard fait bien les choses, à tout hasard. On le dit souvent, il est très présent dans nos vies, le hasard, n'est-ce pas?
Oui, il est très présent avec des sens assez différents d'une fois sur l'autre. Et c'est pour ça que c'est un thème qui m'intéressait, parce que quand on essaye de donner un peu de formalisme à toutes les définitions qu'on peut donner intuitivement du hasard, et ben on obtient des choses assez différentes selon qu'on parle du hasard des rencontres, par exemple, ou du hasard de la météo. Le temps qu'il fera dans une semaine, c'est du hasard aussi, mais ce n'est pas le même hasard que de rencontrer quelqu'un dans la rue.
Est-ce qu'il existe une définition mathématique, objective, solide, à l'exclusion de tout autre du hasard?
Alors ça, c'est aussi une des choses qui m'a beaucoup étonné quand j'ai commencé à m'intéresser au hasard, c'est que je me suis rendu compte que le meilleur domaine pour définir le hasard, c'est pas les probabilités, comme on imagine assez facilement, hein, parce que le hasard, on voit ça à l'école ou même à l'université en probabilité. Alors on s'attendrait à trouver dans tout manuel de probabilité, dès les premières pages, une définition du hasard. Et en fait, pas du tout. Ce qu'on trouve dans les premières pages, c'est une espèce de définition pas du tout satisfaisante, qui est que tout événement peut être considéré comme aléatoire, donc comme provenant du hasard. C'est-à-dire que pour la base des probabilités en tout cas, un événement aléatoire, c'est un événement tout simple. Même s'il est certain, même s'il est impossible.
Du moment qu'il arrive, il est aléatoire.
Voilà, qu'il arrive ou non. Que le fait que 1 plus 1 égale 3, par exemple, ça c'est pas possible, c'est faux, et ben c'est quand même un événement aléatoire pour la théorie des probabilités.
Alors où est-ce qu'il faut aller pour trouver une définition satisfaisante?
Ben voilà, quand on cherche un petit peu, en fait, il y a plusieurs tentatives qui ont été faites au cours des dernières décennies, peut-être un siècle, et il y a une définition qui semble émerger, qui vient de la complexité de Kolmogorov, ça s'appelle, c'est un gros nom, ça vient de l'informatique théorique. Et en gros, l'idée qui est derrière, c'est qu'une suite de nombres, mais ça s'applique que pour les suites, hein, une suite de nombres de 0 et de 1 peut être considérée comme aléatoire si aucun programme court ne peut la générer. Et ça correspond à une idée en fait assez simple. Si vous considérez, par exemple, pour illustrer une suite comme j'écris 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, et je répète comme ça, tout le monde considère que ce n'est pas aléatoire. Pourquoi? Parce que je peux décrire cette suite infinie très simplement en disant c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, répétez à l'infini.
Et ça, c'est le programme court. Votre définition, c'est voilà. Un programme court.
Voilà, qui est un programme ou une définition courte, en fait, ça revient au même. Et donc, on peut définir de manière formelle, hein, y a des difficultés techniques à surmonter, mais ça se fait, une suite aléatoire comme une suite qui ne peut pas être décrite ou programmée de manière brève.
Bon, ça, c'est en informatique théorique, mais dans la vie tous les jours, on a l'impression d'être entouré de choses aléatoires. Là aussi, quand on ne fait pas de mathématiques fondamentales, on a des impressions qui sont des illusions quant à l'aléatoire. Des choses qui nous semblent distribuées dans la nature autour de nous de façon aléatoire ne le sont pas nécessairement. Il faut faire attention aux illusions.
Oui, alors ça c'est l'aspect plus du côté de la psychologie. Et j'avais bien aimé le thème du hasard parce qu'il permet justement de faire ce lien pas mal entre les mathématiques qui donnent des pistes en tout cas de définition du hasard et puis la psychologie qui étudie le hasard aussi et donc ce dont vous parlez, c'est-à-dire la perception qu'on a du hasard. Les psychologues ont étudié ça de plein de manières avec des expériences où il faut par exemple inventer des séries aléatoires ou bien deviner ce que va donner un dé ou des choses comme ça. Et on s'est aperçu qu'on avait des impressions complètement fausses sur le hasard, qu'on s'attendait à des choses qui ne correspondent pas du tout à la théorie mathématique. Et ça pourrait expliquer pas mal de superstitions, d'idées irrationnelles qu'on a.
Quel genre d'illusion, quel genre d'erreur de hasard fait-on avec notre perception psychologique?
Je pense que l'erreur la plus discutée chez les psychologues, ça s'appelle le biais d'alternance. Après, il y a une version géométrique, mais le biais d'alternance, qui est qu'on a tendance à alterner, par exemple, dans des suites de pile ou face, les piles et les faces, un peu plus que ce qu'il faudrait. C'est-à-dire que normalement, si on tire avec une pièce, après un pile, on a une chance sur deux de tomber sur pile et une chance sur deux de tomber sur face. Mais on a tendance à dire plus souvent face que pile quand on vient de dire pile, donc à alterner les piles et les faces. Et les psychologues pensent que du fait de ce biais d'alternance, on peut être surpris par des répétitions, donc il y a plusieurs fois de suite pile, et notamment quand il nous arrive des événements tantôt malheureux, tantôt heureux, et bien si on a eu deux malheurs la même semaine, on est surpris au-delà du raisonnable et on s'imagine qu'il va probablement y en avoir un troisième parce que quelque chose de magique arrive. Et voilà comment le biais d'alternance peut expliquer l'idée que jamais 203.
Et vous illustrez, Nicolas Gauvry, dans votre livre, une espèce de ligne de vie sur une année et vous étalez comme ça les événements malheureux qui pourraient arriver à quelqu'un et qui sont vraiment distribués de façon aléatoire. Et là, on voit qu'il n'y a pas cette alternance, qu'il n'y a pas cette régularité, qu'un malheur suit un bonheur, etc.
Oui, c'est assez étonnant de voir, parce que même quand on est au courant, quand on sait qu'il y a ce biais d'alternance, qu'on attend trop de régularité du hasard, on est quand même surpris. Et quand j'ai fait le tirage aléatoire, là, c'était tout simple. J'ai choisi simplement 12 dates dans l'année pour regarder si c'était étalé à peu près une par mois ou pas du tout. Et puis, si je me souviens bien, il y en a trois en deux semaines d'affilée.
Je pense que la personne vit un mois d'avril terrible, horrible.
Voilà, c'était ça, c'était l'horrible mois d'avril.
Et ça, c'est un biais parce qu'on aime bien que les choses... C'est peut-être notre regard, que les choses soient balancées. Quand on est dans le milieu d'une forêt, par exemple, avec tous ces arbres autour de nous, on a cette impression d'harmonie de la nature. Tout est distribué de façon, pense-t-on, aléatoire. Et là non plus, ça ne l'est pas.
Oui, ça, c'est une explication possible parce que du biais d'alternance qui a été proposée par Jean-Paul Delay, qui est déjà venu dans votre émission.
Oui.
Il proposait... que le biais d'alternance venait peut-être du fait qu'on interprète des distributions régulières, comme les arbres dans la forêt, comme provenant du hasard, alors que c'est faux. Les arbres se gênent les uns les autres, donc deux arbres ne peuvent pas pousser très proches l'un de l'autre. Et ça fait qu'il y a une certaine régularité dans les arbres, dans une forêt. Et comme nous, on pense que le placement des arbres est aléatoire, on se dit, voilà, c'est ça le hasard, c'est quand les choses sont bien régulières, bien étalées.
Alors que ça l'est pas du tout. Et il y a aussi un biais qui est culturel, parce qu'on baigne tous dans une culture, ça nous fait avoir certaines propensions, certaines idées, certaines préférences pour soit la préséance d'un chiffre, d'une lettre, d'un arbre. Et la culture influence notre subjectivité par rapport au hasard.
Oui, alors ça c'est un problème un peu différent de l'alternance, dans le sens où ça s'intéresse uniquement à un tirage. Mais quand on cherche juste à dire une chose au hasard, une des premières expériences en psychologie là-dessus, c'était de demander simplement un chiffre au hasard entre 0 et 9.
Alors, on demande aux auditeurs, là, on ne dit pas de chiffre, on demande à tous les auditeurs de penser à un chiffre entre 0 et 9. Et il y a une grande probabilité qu'ils aient pensé à...
7.
Pourquoi?
Pas une majorité, mais environ 30% des gens à qui on demande un chiffre entre 0 et 9, ou un nombre entre 0 et 9, répondent 7. Il y a plusieurs explications, on n'est pas tout à fait sûr des explications, mais enfin, l'explication peut-être la plus crédible, c'est que le 7, c'est un nombre typique, et peut-être qu'il est typique parce qu'il n'a pas de propriété évidente. Il n'est pas pair, ce n'est pas le premier nombre de la liste, ce n'est pas le plus grand non plus, il est à peu près au milieu, enfin bref, c'est un bon candidat pour être un nombre quelconque. Alors les choses qui viennent à l'esprit en premier, comme le 7 pour les nombres, c'est ce qu'on appelle en psychologie des éléments typiques. Et il y a des nombres typiques, donc, mais il y a aussi des arbres typiques. Et ça, comme vous dites, ça dépend de la culture. En France, c'est le chêne pour un
arbre.
Oui,
je pense qu'ici, ce ne serait pas le chêne. Mais
je pense à l'érable, oui.
Ou le sapin, oui.
Ou le sapin.
Est-ce que le fait d'avoir ces biais-là qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, mais par rapport au hasard, ça distorsionne un peu l'idée qu'on peut avoir au hasard? On fait peut-être plus confiance qu'on ne le devrait aux loteries. Dans notre vie, là, ce lien entre psychologie et hasard, il s'exprime comment, Nicolas Gauvry?
Là, oui, en psychologie, il y a des applications de tous ces biais du hasard. Et vous parlez là d'une des conséquences de notre perception biaisée, qui est les comportements de jeu aléatoire. C'est-à-dire qu'on a tendance à surestimer la probabilité d'apparition de quelque chose qu'on imagine facilement. Et dans le cas de la loterie, comme on voit facilement des gagnants à la télévision ou qu'on les entend à la radio et assez peu les perdants, on a tendance à imaginer que gagner est plus probable que ce que c'est en réalité. On sait que c'est pas très probable, mais enfin, on a quand même tendance à se dire que c'est possible et un peu plus possible que ce que ça n'est en vrai. Et du coup, cette perception biaisée du hasard peut expliquer pourquoi tant de gens jouent. C'est un bout d'explication.
Vous travaillez en psychologie et en mathématiques à la chaire de recherche en psychologie mathématique. Quel est le lien entre psychologie et mathématiques qui vous passionne?
Moi, ce qui me passionne, c'est l'utilisation des mathématiques pour la psychologie. La psychologie, c'est une science qui a à peu près un siècle. Et depuis un siècle, il y a quelques psychologues, très minoritaires, mais il y en a, qui utilisent et qui développent des outils mathématiques. Et c'est une science partiellement mathématisée, si on veut. Alors évidemment, on fait des petits modèles mathématiques sur des choses très locales. Ça n'a rien à voir avec la mathématisation de la physique. Mais il y a quand même des maths utiles pour la psychologie. Et j'aime bien la rencontre de ces deux domaines qui ont l'air tellement opposés auprès du public.
Alors notre esprit, notre âme, notre personnalité, elle est réductible à des formules? Elle est réductible à des chiffres, à des nombres?
On n'en est pas du tout là encore, ça c'est sûr. Comme je vous disais, les modèles mathématiques qu'on développe pour la psychologie sont très locaux, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer mathématiquement une tendance pour un comportement particulier dans un contexte, ça s'arrête là.
Mais on a aussi besoin de mathématiques et de hasard, et là je reviens à votre sujet sur le hasard, Nicolas Gauvry, parce qu'on a besoin de crypter, d'encrypter, de décrypter, on fait des transactions sur Internet, on a des informations confidentielles, tout ça, on a besoin d'aller définir, d'aller chercher l'aléatoire et le hasard de façon très pointue et très efficace.
Oui, pour tous les problèmes de cryptage en informatique, on a besoin d'avoir des clés pour coder, qui soit presque aléatoire. C'est-à-dire plus c'est aléatoire, mieux c'est. Et du coup, les informaticiens ont développé des méthodes pour produire des suites de chiffres qui ne sont jamais vraiment aléatoires, puisque c'est fabriqué avec des programmes simples. Donc, par définition, ça ne peut pas faire des suites aléatoires, mais qui ont quand même beaucoup de propriétés du hasard. Et on arrive à des choses assez impressionnantes avec des méthodes très simples. On obtient des suites de chiffres qui ressemblent vraiment au hasard.
Ah, c'est comme si le hasard était un but inatteignable, une perfection auquel aucun programme ne peut prétendre. Le vrai de vrai hasard, pur et mathématiquement inattaquable, il est inatteignable aussi.
Oui, c'est ça. C'est vraiment un paradoxe du hasard assez amusant. C'est, par exemple, en mathématiques, on peut démontrer avec la définition dont j'ai parlé tout à l'heure des suites aléatoires, que l'énorme majorité des suites sont aléatoires, c'est-à-dire en fait il y a infiniment plus de suites aléatoires que de suites non aléatoires, mais on peut citer aucune suite aléatoire, puisque par définition si on peut la citer, donc c'est-à-dire la décrire en un nombre fini de mots, elle n'est pas aléatoire.
Et vous n'avez pas, Nicolas Gauvry, que sondé les mathématiques et les mathématiciens. Dans vos travaux, vous avez aussi distribué des questionnaires pour voir ce que les gens de toutes allégeances, c'est-à-dire des scientifiques, des gens en sciences, en art, ce que ces gens-là avaient à dire sur le hasard, ce que vous appelez les définitions naïves du hasard. Et c'est intéressant de voir ce que les gens ont répondu.
Dans ces questionnaires-là, ce que j'ai trouvé le plus amusant, c'était un des premiers paradoxes que j'ai rencontré sur le hasard en psychologie, c'est que quand on demandait aux gens « Est-ce que vous pensez qu'on peut produire du hasard ?» et que si je vous demande de répondre au hasard, vous pourrez le faire, la grosse majorité répondait « Non, on ne peut pas parce qu'on est toujours influencé, etc. » Et quelques questions plus loin, on demandait « Dites pile ou face au hasard ?» et tout le monde a répondu. Et ce qui fait qu'il y a une majorité de gens qui disent « je ne peux pas répondre au hasard » et qui, quatre lignes plus loin, répondent au hasard quand on leur demande de le faire. Et ce qu'ils ont fait quand ils ont essayé de répondre au hasard, c'était effectivement assez aléatoire. Un autre résultat intéressant, amusant, là, comme vous dites, on a interrogé des gens de divers horizons, c'est que les artistes et les gens en sciences humaines sont plus doués que les scientifiques pour répondre au hasard. C'est-à-dire
ah
que
bon?
ce qu'ils ont donné comme réponse à pile ou face était plus aléatoire que ce qu'ont donné les scientifiques.
Et là, pourquoi il reste des thèses à écrire?
Et là, oui, ça peut s'expliquer peut-être par le fait qu'ils croient plus au hasard que les scientifiques et donc ils sont plus motivés pour essayer.
Et quand vous demandez à des gens, par exemple, de dire pile ou face ou de donner pile ou face au hasard, les gens vont répondre pile ou face, c'est l'un ou l'autre. Et dépendant de la langue et de la culture qu'on a, il y a un mot qui va revenir plus souvent. En français, on va dire plus souvent pile que face.
Ouais.
En anglais, c'est le contraire.
Oui. Alors ça on l'explique par le fait qu'en français, on dit toujours pile ou face, jamais face ou pile. Et que du coup, pile arrive en premier. On appelle ça un biais de préséance, on dit ça comme ça. Et en anglais, comme on le dit dans l'autre sens, il faudrait que je le dise sans me tromper.
C'est head or tail.
Voilà, head or tail. Donc c'est head d'abord. Et c'est celui qui revient le plus souvent.
Le hasard pur est très difficile à cerner, et pour les grands mathématiciens, et pour nous dans la vie de tous les jours.
Oui, et puis pour tout le monde. Je crois que là, moi, je parle de mathématiques et de psychologie, mais il y a d'autres domaines qui s'intéressent aussi au hasard, que je connais pas du tout. Mais en physique quantique, on s'intéresse au hasard. En philosophie, il y a eu beaucoup de choses aussi sur le hasard.
Ça reste donc un sujet d'intérêt. Pour l'instant, vous continuez, Nicolas Gauvry, à observer ces deux sphères que sont et les mathématiques et la psychologie. Vous êtes maître de conférences en mathématiques et membre du groupe européen de psychologie mathématique à l'Université Artois, auteur du livre « Vous avez dit hasard entre mathématiques et psychologie » aux éditions Belin pour la science. Merci beaucoup de cette entrevue.
Merci à vous.
Et c'est la fin de cette édition des Années-Lumière, une émission signée Dominique Lapointe avec à la technique Pierre Fontaine. Journaliste, Gaëlle Lucia Berdou, Sophie-André Blondin, Hugues de Roussan et Chantal Srivastava. Au site internet, Lily Marin. Chroniqueur invité cette semaine, Marie-Dominique Beaulieu. Je vous rappelle nos numéros de téléphone pour nous joindre. Vous avez le téléphone de la région de Montréal, c'est le 514-597-7166. D'ailleurs, au pays, c'est le 1-800-752-9050. Puis je vous rappelle aussi qu'on a le courriel lumière@radio-canada.ca. C'est Yannick Villedieu qui vous parle. Je vous souhaite une bonne semaine à l'écoute de la première chaîne de Radio-Canada. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre édition des Années-Lumière. Au revoir.